RMC.
Nous sommes de modestes provinciaux qui seraient très satisfaits d'être champions d'automne.
C'est dur à dire peut-être pour ma famille, mais c'est peut-être le plus beau jour de ma vie.
On s'est tapé dans la main en visio dans la nuit.
After Lyon,
Thibaut Giangrande.
Salut mes Lyonnais, comment ça va? Bienvenue dans l'After Lyon, le podcast qui débat de l'actu de l'OL toutes les semaines, dispo sur les applis RMC, RMC Sport ou sur vos plateformes habituelles. N'hésitez pas surtout à vous abonner, vous ne raterez aucun épisode, vous pouvez également tout commenter ou noter. L'équipe cette semaine, Edouard G, en direct de Lyon. Salut Doudou.
Salut à tous, salut Thibaut, salut coach.
Eh oui, coach est là.
Salut Doudou. Eh oui, il est là.
L'OL n'a pas perdu. Bon, c'est le point positif d'une semaine sans match finalement, mais on prend toutes les bonnes nouvelles en ce moment. Mais surtout, après la première victoire de l'année, on se projette les gars. Dans un peu plus d'un mois, déjà le mercato d'hiver. Quel recrutement pour sauver l'OL de la relégation? C'est notre débat de la semaine. Et la première question, Edouard, coach, est de savoir qui fera ces transactions. La nouveauté du week-end, en tout cas à Lyon, Edouard, elle s'appelle Laurent Prudhomme. C'est le nouveau directeur général de Lyon. Il vient faire quoi exactement?
Bah en fait, il vient reprendre quelques fonctions qu'auront plus dans quelques temps certains hommes de Jean-Michel Aulas. Je m'explique. Il y a une première partie parce que le communiqué de John Textor de vendredi soir tard est assez long. Donc il y a une partie là où il sera DG au quotidien. Donc là, il va remplacer Thierry Sauvage, qui est un historique dirigeant de l'OL, un dirigeant de l'ombre, qui va partir en principe début de l'année prochaine, en sachant que Laurent Prudhomme arrive justement en février 2024, c'est bien à avoir en tête, hein, il arrive pas demain. Donc là, il va avoir la gestion au quotidien, donc là, il y a pas de, on va dire que c'est du traditionnel, il récupère cela.
Sauvage, un historique qu'on connaissait pas trop, quoi, bon.
Voilà, Delon, ouais, qui est un personnage de Delon, mais voilà, ça fait partie des hommes de Jean-Michel Aulas. Ensuite, il y aura une partie représentation, auprès des instances, il y a une forte compréhension, c'est ce qu'on lit dans le texte, dans le communiqué des droits télé, des négociations avec les différents opérateurs. Donc là, en tant qu'ancien de l'équipe, mais aussi il était du côté de Canal+ ou d'Eurosport. C'est ce qu'occupait un petit peu Jean-Michel Aulas, ou même beaucoup, la représentation au niveau des instances. Et puis, on va dire qu'il y a une troisième partie, en lisant bien entre les lignes de ce communiqué, il y a une partie, on va dire, où il récupère quelques fonctions de Vincent Ponceau, le directeur du football. Même s'il dit, que cite le texte, les décisions finales sur les questions de football me reviendront. Alors le me, c'est pas moi, mais c'est Textor. John Textor. Ouais. Donc il va falloir qu'il se mette dans cet organigramme avec un John Textor tout puissant qui aime pas trop déléguer et qui, pour votre compréhension, a d'une certaine manière extirpé, exfiltré Santiago Cucci, qui était nommé directeur général par intérim début juillet dernier. Bah parce qu'il est un petit peu allé trop sur les plates-bandes sportives du boss, notamment en essayant d'appuyer Sonny Anderson en tant que directeur sportif. Tout ça pour vous dire qu'il va falloir un peu de diplomatie, un petit peu d'entre-gens pour marcher sur des œufs. Parce que je vous disais, les deux premiers repartis, directeur général et représentant, ça, John Textor va le laisser, il n'y a pas de problème, c'est le quotidien.
Et le sportif.
Mais l'aspect sportif, il va pas trop falloir qu'il se mêle un petit peu de tout ce qui se passe dans le vestiaire.
Alors tu vas nous parler de la partie recrutement qui nous intéresse dans l'épisode cette semaine. Mais déjà, juste, Roland, avec ce que nous dit Edouard, et bon, ça fait plusieurs mois qu'on commence à connaître Textor, mais t'as déjà bossé avec un Textor, toi, quand t'étais coach? C'est-à-dire qu'il y a un propriétaire tout puissant qui met son nez partout, etc. Ça complique les choses ou pas?
Mais il y en a combien de questions?
Deux. Est-ce que t'as déjà bossé avec un Textor?
Un Textor, là.
Tu vois ce que je veux dire? Un propriétaire.
Bon, je te taquine, évidemment. Ouais. J'ai beau chercher, mais je ne vois pas. C'est même pas quelqu'un de compliqué, parce que des personnes compliquées, bah, évidemment, il y en a, notamment les personnes qui dirigent. Mais là, ce n'est pas seulement qu'il est compliqué, c'est qu'il est impossible à suivre. Donc, et là, vous me parlez du mercato, mais pour le mercato, déjà, qu'est-ce qui se passera du côté de la DNCG? Ce joueur qui a transité, qui finalement a été prêté, comme il s'appelle, Doudou
Nuama.
Ernest Nuama.
Nuama. Et ensuite, est-ce que déjà...
Là, il y a une enquête de la FIFA. Hein,
voilà. Et est-ce que déjà, il n'y aura pas de départ de joueurs importants.
Bah voilà, tiens, bah, passe décisive, vas-y Edouard, réponds à ces trois questions de coach Courbis.
Alors c'est vrai que la DNCG, ça va être, alors on nous parle du 28 novembre prochain, est-ce que la date va être pourquoi pas décalée, mais en tout cas voilà, elle va arriver la semaine prochaine. La décision de la FIFA qui se penche sur ce prêt entre Molenbeek et l'OL d'un joueur transféré entre Nordjylland et Molenbeek, donc je vous parle d'Ernest Nouama. Alors ça, on ne sait pas trop où ça en est. Et puis, c'est vrai qu'avant de faire peut-être arriver des joueurs, il va falloir voir s'il n'y en a pas un certain nombre.
On se rappelle de Barcola et de
Loukeba.
De Loukeba.
Ouais. Alors,
c'était quand même une désagréable surprise pour les supporters lyonnais, ça.
Le tout en rappelant que John Textor, avec traduction de Bruno Chéroux dans les vestiaires lors d'un match amical à Molenbeek, avait dit « On ne se séparera pas des grands talents de l'OL ». Une semaine après, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, les deux joueurs ont été exfiltrés. Mais c'est vrai qu'après, il y a des rumeurs entre René Saône, comme on dit, sur pourquoi pas Alexandre Lacazette qui pourrait partir au mercato s'il y a quelques sirènes qui pourraient arriver, alors ou d'Arabie Saoudite ou de franchise américaine, pourquoi pas non plus un certain Corentin Tolisso. Voilà, c'est des ressentis. Donc est-ce que ces joueurs-là vont être titillés entre le fait de on verra ce que ça va donner au mois de janvier, hein, parce que d'ici là, il y a quelques matchs, donc il peut y avoir quelques points dans les escarcelles, mais s'il n'y en a pas, ils peuvent être tiraillés entre le fait de se dire « Oh là là, mais c'est une telle réorganisation, un tel navire, un tel Titanic qu'on ne veut pas rester », ou au contraire, on veut essayer de remettre ce navire qui coule sur le bon chemin.
Roland, pour rebondir ce que nous dit Edouard, un potentiel départ cet hiver d'un Lacazette, d'un Tolisso, catastrophique pour l'OL, ou alors de se dire, parce que c'est vrai que bon, c'est du ressenti aussi, mais Lacazette, on le voit, et même Tolisso, finalement, on a l'impression de les voir un peu déprimés sur le terrain.
Ben, disons que bon, on vient de vivre un dernier match particulier, puis en plus il a été particulier aussi du côté de Rennes, parce que Genesio, ex-Lyonnais, ben, perd à domicile, à 10 contre 11, d'accord, contre Lyon, qui ne gagne pratiquement jamais. Donc ça a déclenché un problème. Mais n'oublions pas non plus que dans ce match-là, Lacazette est 12e.
Donc, il est sur le banc.
Et là, moi, tu me posais la question, qu'est-ce que tu vois comme recrutement? Mais j'allais te répondre un complément de Lacazette, mais si en plus il faut remplacer Lacazette, là, sincèrement, Doudou, je sais plus quoi dire.
Bah, c'est pour ça que je vous parais peut-être pessimiste au long des podcasts sur l'avenir de l'OL. Mais c'est vrai quand on rassemble toutes ces pièces-là, tout ce puzzle qui se met en place, clairement, à l'instant T, on ne voit pas quels ressorts peuvent amener l'OL à se sortir. Parce que, en plus, par exemple, je vous parlais de Laurent Prudhomme, et toute la réorganisation, on parlera aussi, Thibaut, de la cellule recrutement.
Oui, justement. Oui,
on est le fin novembre, ces personnes-là vont être effectives au mois de février pour Monsieur Prudhomme, et puis le reste, éventuellement, au mois de janvier.
Alors justement, le recrutement...
Alors qu'on est dans l'urgence, et on se donne encore du temps.
Le recrutement, le mercato d'hiver qui ouvre le 1er janvier, qui se termine le 31 janvier à minuit, qui bosse dessus, là, aujourd'hui, qui, à l'OL, est en train d'essayer de bosser sur ce mercato d'hiver.
Préparer le dossier.
Ouais, bah oui.
Alors, il y a Mathieu Louis-Jean, parce qu'il est chef du recrutement, il est là depuis le mois de juillet, avec Ben Charrier. Ils ont recruté... Alors, tous les noms que je vais vous citer, ce sont des confrères qui les ont donnés, et il n'y a aucune communication officielle de l'OL. Hein, c'est bon à savoir. Donc, ça veut dire que ces noms-là sont a priori bons, parce qu'on me les cite aussi, mais qu'ils ne travaillent pas, du coup. Vous me suivez?
Ils n'ont pas été officialisés.
Donc, Donc, il y a Mickaël Marquez, qui est un jeune scout qui était sur les réseaux, qui lui-même s'est annoncé, mais c'est lui qui va repérer un peu des joueurs. Par exemple, c'est lui qui a repéré Bruno Guimaraes bien avant qu'il soit dans les tuyaux de Juninho et de l'OL. Voilà, ça, c'est un jeune, on va dire, geek, hein, qui est sur les réseaux, qui a des bonnes idées par rapport à ça. Ensuite, on parle de Mathieu Sekinger, de Thomas Morin et d'Omar Sciola. Ça, ce sont des noms avancés par nos confrères de l'équipe. Donc, concernant ces joueurs, ces personnes-là, ces scouts, voilà, qui connaissent bien Mathieu, Louis-Jean. Et alors, tout cela nous dessine aussi un changement vraiment de paradigme, parce que si ces gens arrivent, Eh ben, ils vont remplacer j'allais dire des joueurs. Non, des scouts qui partent, notamment Michel Rouquette, notamment Alexandre Janin et Alain Caviglia. Ces hommes d'un certain Bruno Chéroux. Alors, parmi les.
Lui, il est toujours là ou pas, alors, justement, Bruno Chéroux, est-ce qu'il a encore un rôle? Comment ça se passe, là?
Alors, lui, vous savez, il a été exfiltré un petit peu et il s'occupe au niveau d'Eagle Football du bien-être des joueurs. Hein, c'est ce qu'avait annoncé Textor dans une interview. Il va s'occuper, oui, je dis bien ça, Roland, Thibault. Il va s'occuper du bien-être des joueurs.
Docteur pour Textor, non?
Savoir comment est un joueur, comment va sa famille, s'il est heureux, combien de championnats il veut gagner au Brésil avant d'aller en Europe. Voilà, il est dans cette structure d'Eagle Football. Mais bon, des proches le sentent un petit peu lassé parce que déjà il y a le départ de Laurent Blanc dont il était proche. C'était l'ADN de retour avec Alexandre Lacazette, Dejan Lovren. Là, on voit bien qu'il est cité dans aucun des différents communiqués. Donc on sent qu'il est plus trop dans les cercles de pouvoir. Et en plus, quelque part, ses hommes à lui, Michel Rouquette, Alexandre Janin, avec Caviglia, alors là aussi c'est pas officiel qu'ils partent parce que donc du coup ils travaillent encore un petit peu, mais ils ont reçu récemment leur lettre signifiant peut-être une fin de collaboration. Ouais. Donc là on est tout dans cette mise en place de cette cellule fin novembre, alors qu'il y a une urgence pour le mois de décembre janvier des gens qui a priori pourraient travailler à partir du mois de janvier quoi.
Bon, justement concrètement, coach, cette OL,
ton souffle en dit long sur
faut s'accrocher, qui reste sur cette victoire contre Rennes. Bon, Roland, c'est quoi les priorités où l'OL doit se renforcer? Alors évidemment quand on est dernier un peu partout, mais s'il y a deux, trois postes vraiment clés, bon, indispensables.
Mais j'insiste, et c'est pas de l'ironie, je suis sincère. Déjà, soyons sûrs qu'avant de se renforcer, ils ne vont pas s'affaiblir. Parce que là j'ai du mal à suivre. Donc, et si effectivement, allez, ils ne s'affaiblissent pas, ben je pense qu'il faudrait, avec en plus la blessure de Le Penant, même si il ne jouait pas beaucoup. Il était tout de suite derrière la porte. S'il y avait un problème, il pouvait filer un coup de main. Je le trouve quand même très, très intéressant. Donc déjà, un milieu, ça, c'est sûr. Arrière centraux, je pense qu'il y a ce qu'il faut. Les latéraux aussi. Et pour moi, un bon attaquant, comme, évidemment, voire même très bon, mais surtout bon ou très bon, ça, c'est une évidence. Mais complémentaire avec la casette. Et là, j'ai été surpris il y a 5 minutes, j'ai même pas pensé un seul instant que la casette pouvait partir. Par contre, c'est vrai que la casette sur le banc à Rennes, là, j'étais quand même surpris.
Et la casette qui s'en va, ce serait catastrophique ou pas pour toi, Roland?
C'est-à-dire, quand je vois partir un joueur d'un club, avant de penser si c'est catastrophique ou pas, j'attends de voir par qui il est remplacé. S'il y a la casette qui part et qui est remplacé par un duo complémentaire, et ben, à ce moment-là, ça ne peut pas être une catastrophe. Mais un Lacazette, déjà, qui est nettement moins bon que la saison dernière, mais qui retrouve un petit peu la même forme.
Trois buts en Ligue 1 pour l'instant.
Ouais, et les mêmes, si tu veux, stats que la saison dernière, ça pourrait être l'homme des matchs retour.
Édouard, évidemment, on a déjà du mal à suivre sur la cellule de recrutement, donc compliqué de savoir sur quel profil ça bosse. Toi, qui commandes tous les matchs de l'Olympique de Lyonnais, où tu vois les plus grosses carences absolument gérées en janvier?
C'est surtout au milieu, parce qu'on a vu, et j'ai souvent utilisé cette formule, que ça faisait mal aux yeux de voir un milieu de terrain aussi perdu d'une certaine manière, quand on voit Maitland Niles par exemple, ou Skelly Alvero qui est peut-être plein de promesses. En tout cas, il plaît énormément à Fabio Grosso, mais pour l'instant, c'est jeune. Mamadou Diawara, excusez-moi. Là aussi, c'est peut-être très bien, c'est très bon, mais ça a 18 ans, c'est 2005. Donc il faut un Corentin Tolisso, peut-être du niveau de Corentin Tolisso, mais un peu plus en forme, quoi, en fait. Voilà, d'une certaine manière, il faut vraiment de la qualité de pied au niveau du milieu de terrain. Et puis devant, quand on voit qu'on a Jeffinho, qu'on a Mama Baldé, et puis Ernest Nuama, il va falloir à un moment donné aussi qu'il se réveille et qu'il soit conforme à toutes les prévisions et toutes les datas que l'on a vues sur lui quand il était dans le championnat du Danemark.
Ton ressenti sur Lacazette, Tolisso, Edouard, que tu suis, est-ce que l'impression que nous on a de l'extérieur, de peut-être d'être on déprime, quoi. Hein. Enfin, c'est, moi, c'est ce que je ressens. Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens aussi?
Bah, en fait, il faut savoir que ce sont des Lyonnais de naissance formés au club, qui en plus de savent tout ce qui se passe de l'intérieur et qui sont totalement frustrés de ne pas arriver alors qu'ils donnent énormément. Hein. C'est pas des gens qui affaiblissent le vestiaire, qui fracturent le vestiaire, le gang des Lyonnais. Ça, c'est quelque chose qui me révolte quand je l'entends, parce que c'est absolument pas vrai. Après, chacun peut penser ce qu'il veut, mais en tout cas, c'est ce que je ressens moi au plus près. Donc, ils sont vraiment malades. Tous les Lyonnais qui sont dans le club, ils se disent que potentiellement, on est dans la liste des joueurs qui peuvent mettre cette équipe en Ligue 2. Alors que des Corentin Tolisso et des Alexandre Lacazette, quand ils arrivent en juin 2022, ils sont là pour, l'OL finit 7e, pour remettre l'OL en Europe. L'année d'après, ils sont 8e et là, ils bataillent à la dernière place. Donc vous imaginez dans la tête tout ce que ça représente, d'où ce partage, même s'il y a des propositions qui peuvent arriver. Qu'est-ce qu'on fait, quoi, en fait? Est-ce qu'on va vers un beau chèque et puis des beaux un beau climat, ou est-ce qu'on reste sur un bateau qui tangue?
Il y a des joueurs qui partent à la CAN.
Oui, en plus, je crois qu'il y en a il va y en avoir beaucoup. Et alors, j'ai pas compté, mais il y a aussi cette donnée-là. Là, tu me prends un petit peu à froid, mais forcément, j'imagine qu'Ernest Nuhama, je sais pas les pays qui sont qualifiés, mais c'est vrai que ça va en faire encore quelques-uns qui peuvent éventuellement partir.
Et d'ici cette CAN, ce mercato d'hiver, donc le penant s'est tombé, hein, c'est 2 mois d'absence avec son entorse du genou gauche. Et en plus de ça, le calendrier, là, dès la reprise, il y a 5 matchs assez terribles qui attendent l'OL. Réception du LOSC, déplacement à Lens, déplacement à Marseille, bon, réception de Toulouse, déplacement à Monaco, les 5 prochains matchs de l'Olympique Lyonnais.
Réception de Nantes aussi. Mais réception de Nantes et réception de Toulouse, hein, c'est aussi compliqué pour une équipe qui est dernière.
Oui, finalement, tout est compliqué. Merci Edouard, merci mon coach.
Salut,
ciao, ciao.
Merci les amis. À Toto et à Jérôme en régie. Merci à vous surtout d'être là, fidèle à l'After Lyon comme toutes les semaines. On vous souhaite justement une bonne semaine et à très vite. Bye bye.
RMC After Lyon.